Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, mobilisation pacifique à l'accueil du CCAS, la Caisse Centrale d'Activité Sociale à Villefranche, d'un collectif local de citoyens, d'associations en solidarité à la famille albanaise Koshi, réfugiée en France depuis 2 ans et dans la rue actuellement. Le témoignage de Philippe Souchet de ADSV, ainsi que 2 membres de la famille, le jeune Ramis et sa maman. Puis, afin de mieux nous aider à cerner la maladie du diabète, Bernard Porta, professeur émérite de nutrition et diabète à l'Université Paris-Diderot. Et pour conclure, nous vous invitons sur l'un des géosites, la carrière de Lucenay, place de l'Église, une perle blanche au milieu des pierres dorées, que nous présente Anne-Sophie Bernard, adjointe à la commune. Calade, le journal. RTL a connu une chute brutale de son audience, tandis que celle d'Europe 1 poursuit sa longue glissade. Infographie par Enguerrand Renault du Figaro.com. 2 stations du groupe Radio France tirent leurs épingles du jeu selon Médiamétrie. Après 5 années d'efforts, France Inter est parvenue au Graal. Pour la première fois depuis que Médiamétrie mesure les audiences radio, France Inter est la première radio de France. Sur la période de janvier à mars 2019, la station publique a rassemblé 6,34 millions d'auditeurs chaque jour, soit une audience cumulée de 11,7%. En novembre dernier, sa directrice, Laurence Bloch, déclarait au Buzz Media Le Figaro qu'elle espérait ravir la couronne rapidement. Mais elle a été surprise de la rapidité avec laquelle cette prédiction s'est réalisée. Il faut dire que France Inter a bénéficié de 2 facteurs favorables. La première, la chute d'une ampleur inattendue de l'audience de RTL, qui en 1 trimestre a perdu 0,9 points à 11,3% d'audience cumulée. Pire, la station a perdu 15 minutes de durée d'écoute. Comme si les auditeurs fidèles avaient subitement tourné le dos à leur station. Un mouvement qualifié d'atypique par Christophe Baldelli, le patron de la branche radio et information du groupe M6. Fair play, il salue la performance de France Inter avant de s'interroger. RTL a battu le record historique de la durée d'écoute toute radio confondue entre novembre et décembre 2018. Depuis, la grille n'a pas changé. Et l'actualité n'a pas été bouleversée. Pourtant, l'audience de RTL a baissé. Entre janvier et mars 2019, sonnez, la direction de RTL se refuse à tirer le moindre enseignement hâtif. Elle attend tranquillement la semaine prochaine et une nouvelle mesure d'audience pour voir si le phénomène perdure et si la matinale d'Yves Calvi, qui a perdu 320 000 auditeurs en 1 an, est toujours à la peine. Mais effectuer des changements dans la précipitation n'est jamais bon en radio. L'autre allié objectif de France Inter est Europe 1, qui poursuit un long chemin de croix. Pour la première fois, son audience se chute en dessous du seuil des 6% pour tomber à 5,9% avec seulement 3,2 millions d'auditeurs. Un véritable calvaire pour la station qui a tenté une nouvelle relance à la rentrée de septembre 2018. En 2 ans, la radio du groupe Lagardère a perdu plus d'1 million d'auditeurs. Ils se sont lassés des changements incessants de matinaliers. 3 ans, 2 ans, avec Thomas Soto, puis Patrick Cohen et enfin Nico Saliagas. Et un France Info au top 4, qui affiche une audience cumulée de 8,6%, soit un gain de 130 000 auditeurs sur 1 an. Et France Culture fait une nouvelle percée avec un gain de 335 000 auditeurs. La plus forte croissance, toute radio confondue. Radio France se réjouit bien évidemment des bonnes performances des stations du groupe qui démontrent l'existence de choix éditoriaux pertinents et des équipes extraordinaires. Des Gaulois, oui, mais des Gaulois qui s'informent. Mobilisation pacifique à l'accueil du CCAS, la Caisse Centrale d'Activité Sociale à Villefranche, jeudi après-midi, d'un collectif local de citoyens, d'associations en solidarité à la famille albanaise Koshi, réfugiée en France depuis 2 ans et actuellement dans la rue. Après la trêve hivernale, aucune proposition de logement n'a été faite, 115 saturé. Le témoignage de Philippe Souchet de ADSV, Association d'aide sans visa, et de membres de la famille. Donc on est devant effectivement le CCAS, alors qu'est-ce que se passe-t-il ?
Alors nous sommes plusieurs associations, un collectif de plusieurs associations locales qui venons pour défendre la cause d'une famille qui s'appelle les Koshi, et qui est une famille en France depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, qui sont des réfugiés et qui avait qui était à la rue l'année dernière. Donc une association leur a trouvé un logement sur Villefranche, et au moment du plan grand froid, la veille sociale les a obligés à quitter cet appartement pour aller au foyer Mérard pour le plan grand froid. Et à la fin du plan grand froid, on les met dehors sans leur avoir trouvé d'appartement, alors que quand ils y sont rentrés, c'était la condition de chantage, c'est-à-dire soit vous venez et on vous trouve un appartement, soit vous resterez à la rue. Et au final, ils se retrouvent à la rue sans solution de logement. Et quand on interroge les services, il n'y a aucune solution de logement. Donc on a une famille avec deux enfants en bas âge, le plus jeune à 12 ans, qui se retrouve sous tente sur les quais de Saône. Donc c'est absolument insupportable pour tous les gens qui gravitent autour de... Donc toutes les associations qui travaillent auprès des réfugiés, là, sont scandalisées. Et donc on vient aujourd'hui pour mettre la veille sociale devant ses responsabilités. Puisqu'ils ont dit qu'il fallait qu'ils aillent dans le centre pour avoir une solution, ben maintenant il faut la donner, cette solution. On ne peut pas imaginer que ces gens soient à la rue. Et nous tous, en tant qu'assos, on est démunis parce qu'on n'a pas de solution de logement pour ces gens. Et on n'accepte pas ça.
Donc c'est une famille qui est là, un petit peu son parcours. Et puis,
alors, ce sont des gens qui
viennent... raisons également de leur venue.
Oui, alors ce sont des raisons politiques, puisque ils étaient sous pression d'une mafia locale. Et c'était une question de vie ou de mort.
Donc au
Kosovo. D'où ils viennent, il y avait eu des sanctions, puisqu'il y a déjà eu meurtre dans la famille. Et ce qui leur pend au nez aujourd'hui, c'est une situation de vendetta, avec encore un risque vital. Donc, refusent avec leurs enfants de retourner là-bas.
Donc, pas de retour possible dans tous
absolument
les cas,
pas.
Sous peine de dangerosité.
Absolument, oui, c'est vital. C'est vital,
vie,
absolument. Voilà. Ouais, donc, ce sont des gens qui s'intègrent, qui apprennent le français, ils suivent des cours via la Croix-Rouge d'apprentissage de langue. Ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer dans notre pays. Deux enfants qui sont scolarisés, tout se passe très bien, sauf qu'ils sont à la rue.
Alors, revenons peut-être sur l'établissement Mérard, qui est un établissement qui est plutôt réservé par la ville, c'est ça ?
C'est un appartement qui appartient à la mairie de Villefranche, qui est réquisitionné par l'État, comme ils le font à chaque fois en plan grand froid, et donc et qui est géré pendant le plan grand froid par une association reconnue et qui est capable de faire ce genre de choses, et qui a un mandat jusqu'à la fin du plan grand froid, en l'occurrence le 31 mars. Cette année, il a été prolongé jusqu'à lundi dernier, comme ça arrive quelques fois comme
oui,
ça.
Parce qu'il y avait du froid, bien évidemment.
Oui, et puis le temps de trouver des solutions, etc. Donc quasiment tout le monde a été trouvé une solution, sauf un couple que quelqu'un héberge chez lui, et cette famille qui est à la rue.
Est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement la possibilité de faire perdurer effectivement un établissement qui est vide aujourd'hui, c'est bien ça ?
Ah bah, évidemment, oui, bien sûr, c'est ce qui nous choque aussi, parce qu'aujourd'hui ce bâtiment est vide. Toutes les parties prenantes disent la même chose, on est même nous...
Volontaire peut-être.
Il y avait l'interrogation de dire à nous tous en collectif, on peut reprendre cet appartement, ces logements.
C'était une ancienne résidence de personnes âgées.
Exactement. Ouais. Alors la mairie dit non parce que y a plein de mauvaises raisons pour ça. Et puis elle a ce bien qui est vide, qui reste sur les bras alors qu'on a des gens à la rue. Mais là aussi, c'est une solution qui n'est pas pérenne. Il faut que les gens aient un logement pour leur famille.
Quoi. Oui.
Hein, parce que là, un foyer, c'est des chambres d'hôtel qui ne permet pas d'avoir un cocon familial. Quand même.
Logement qui ne devrait pas manquer quand même. Hein, sur...
Non.
Je ne vais pas être... Enfin, il y a des logements, ça pousse.
On disait que l'ancien commissariat de Villeneuve, par exemple, qui était complètement inoccupé. Donc l'État en a des logements.
On le sait.
Ouais, on le sait.
Donc là, au CCAS, qu'est-ce que vous souhaitez vous manifester? Bien ça, on a compris, d'être lisible, mais après...
Eh bien, on veut que partir ce soir, sinon on revient demain, jusqu'à ce qu'on nous donne une réponse positive, forcément positive.
Oui, les collectifs...
Alors, les associations, on a le Secours catholique, les sans-papiers, la Croix-Rouge, l'aide ASV, c'est une association d'aide aux réfugiés.
Le tout jeune Ramis et sa maman aux portes du CCAS.
Je m'appelle Marine.
Quel âge que tu as?
9 ans et demi.
9 ans et demi ? Ton petit prénom ?
C'est Oligerta. C'est 12 ans.
Ouais. Et vous-même ?
C'est moi, maman de les enfants. Je m'appelle Fatmira.
Très bien. Et vous parlez quand même bien français ? Il y a combien de temps que vous êtes ici en France ? Oui, ton papa ?
En fait, mon papa, il ne sait pas parler français.
D'accord, il a de la difficulté.
Et nous, on a 2 ans et demi qu'on est en France.
2 ans et demi. Avant, tu étais où alors ?
En Albanie.
En Albanie ?
Dans le pays d'origine.
Mais tu es albanais, tu n'es pas kosovar ?
Non.
Albanais, d'accord,
non,
très
non,
bien.
Non, pas kosovar. pas kosovar, albanais.
Oui.
D'accord, c'est ce qu'on m'a expliqué. Alors aujourd'hui, là, vous êtes où plus particulièrement
Dans un hôtel.
Alors
oui. La rue, c'est difficile, je reste avec deux enfants.
Vous êtes resté longtemps dans la rue?
Avant 3 mois.
Trois mois dans la rue. Oui. Ici, à Villefranche?
Oui, ici. Oui.
D'accord.
La l'arc là-bas.
Et comment vous faites alors pour quand tu vas à l'école comment tu fais pour prendre une douche, pour faire tes devoirs comment ça se passe? C'est pas simple.
En premier, je prends une douche, après le lendemain.
Tu prends la douche où, à l'école?
Non.
Ah ben parce que là tu es en hébergement dans un hôtel.
Oui.
Mais quand tu dors dehors, comment tu fais?
Je me douche dans le lac.
Dans le lac, c'est vrai? Vous douchez
oui,
dans le lac?
Pour laver vêtements.
On part dans le lac.
Le lac, pour faire les douches, c'est dur beaucoup.
Quand on est dehors, on part dans le lac.
Quand on est dehors, vous allez dans le lac.
Il est très moyen.
Et pour manger alors? Parce que là, vous n'avez pas de revenus en fait.
C'est la Croix-Rouge quand on est dehors. Ils viennent et ils nous donnent à manger.
D'accord. La Croix-Rouge qui vous donne à manger. Et les vêtements
Les vêtements, on part les chercher à la Croix-Rouge.
Que je peux répéter, Mélodie, c'est un accident que vous voyez.
Ça, c'est le répit. Ça, c'est le répissé. Le récépissé de maladie pour moi.
Ah, quand d'accord.
J'ai fait l'accident.
Ah, c'est toi qui as eu un petit accident. Bon, et bien sûr, vous voulez essayer d'avoir un appartement.
Le collectif de citoyens d'association Solidarité à la famille albanaise Cauchy, réfugiés, sans logement actuellement à Villefranche, ont promis de revenir chaque jour devant les portes du CCAS jusqu'à ce qu'une solution de logement puisse être trouvée pour cette famille de réfugiés. Pour nous aider à mieux cerner la maladie du diabète, Bernard Porta, professeur émérite de nutrition et diabète à l'Université Paris Diderot.
80% des diabétiques en France et dans le monde entier d'ailleurs sont des diabétiques de type 2. Donc, le diabète qu'on appelait auparavant le diabète de l'âge mûr, qui survient surtout après la quarantaine, lorsqu'on a pris un peu d'embonpoint et donc qu'on aime en particulier la bonne chair et qu'on ne bouge pas trop en termes d'exercice physique. Donc voilà pour thématique générale. Pour simplifier les choses, dans le détail, les choses un tout petit peu plus compliquées, mais je crois qu'on peut retenir qu'il y a essentiellement deux formes de diabète. Type 1, le diabète insulino-dépendant, celui qui nécessite au début de la maladie l'utilisation de l'insuline en administration par voie sous-cutanée, donc par injection quotidienne, à un moment des repas en particulier. Donc ça, c'est 10% des diabétiques, c'est pas beaucoup en pourcentage, mais en nombre total, en France, ça fait quand même de l'ordre de 300 000 diabétiques. Et puis, donc l'immense majorité, 90%, c'est les types 2, donc les gens qui ont très souvent, dans 80% des cas, un excès de poids corporel, donc c'est en fait un excès de masse grasse. On prend du poids, ce qui augmente préférentiellement, c'est d'abord la masse grasse. 80% de diabétiques, en France, ça fait de l'ordre de 3,5 millions de diabétiques, donc c'est pas rien. Dans le monde, on en est à peu près à 300 millions de diabétiques type 2 pour donner l'étendue des dégâts. Et on parle véritablement à propos du diabète de type 2, pathologie épidémique, sachant que jusque-là, le terme épidémie était réservé plutôt aux maladies infectieuses. Cette accentuation du poids du diabète dans la population générale est telle que ça ressemble à une diffusion de type épidémique de la maladie.
C'est dans ce sens-là.
Il n'y a aucun caractère infectieux, évidemment.
C'était Bernard Porta, professeur émérite de nutrition et diabète à l'Université Paris Diderot. Et pour conclure cette édition, nous vous invitons sur l'un des géosites, la carrière de Lucenay, place de l'Église, une perle blanche au milieu des pierres dorées que nous fait découvrir Anne-Sophie Bernard. Elle est adjointe à la commune et elle est jointe par téléphone.
Oui, c'est ça, le géosite de la carrière de Lucenay, la dernière carrière de pierre blanche au milieu des villages en pierre dorée en fait, hein. Donc c'est un site qui a été racheté par la commune en 2015, qui se situe dans le centre du village, juste au-dessus de l'église, qui a été remise en état, qui vient également d'être mise en herbe, et puis qui est également mise en lumière. Oui, c'est une pierre calcaire avec laquelle on a construit, entre autres, Notre-Dame à Villefranche, et également, au centre de Lyon, certaines églises en pierre blanche, comme à Saint-Jean, la cathédrale Saint-Jean. Nous prévoyons donc de faire des animations avec des conférences, mais également pour les plus jeunes, faire connaître les pierres et avec des parcours qui peuvent être sympathiques et amusants, avec également des présentations de ce que font les carriers, de ce que faisaient les carriers, leur façon de vivre, et puis des exemples de ce qu'ils ont sculpté. Et puis on a prévu des parcours pédagogiques qui vont être mis en place tout au long de l'année, et puis que l'on pourra voir ou librement ou au cours de conférences dans le parc.
Et ne manquez pas pour vos balades printanières la visite de l'un des géosites, la carrière de Lucenay, place de l'Église. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade. Hé, souriez, c'est vendredi.